Interview BO par Benoît Bazirico.
Je suis avec Léa Misius, réalisatrice des 5 Diables, le film de la quinzaine des réalisateurs, et Florencia Di Consiglio, la compositrice de la musique. Alors vous vous retrouvez après Ava. Première question pour Léa, dans votre travail de réalisatrice, quelle est la place de la musique? À quel moment vous la travaillez? Est-ce que vous l'anticipez en amont?
Dès le scénario, on en parle. Alors Florencia n'a pas commencé à composer dès le scénario, mais y réfléchir, je pense. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver le film en même temps que la musique. Et ça, en fait, dès l'écriture.
Léa Misius, vous êtes donc la réalisatrice, mais aussi vous êtes scénariste par ailleurs pour d'autres. Est-ce que, de manière générale, en tant que scénariste, vous vous aidez de musique pour l'écriture?
Alors oui, je peux écrire avec de la musique à fond dans les oreilles, j'adore, mais qui n'a rien à voir avec la musique du film. Par exemple, je pense que Les 5 Diables, j'ai beaucoup écrit avec la bande originale de Django. Et vraiment à fond dans les oreilles. C'est pas du tout l'ambiance du film, c'est l'énergie.
Et donc vous vous retrouvez après Ava, on retrouve en personnage principal une petite fille. Dans Ava, le choix musical était le violoncelle et ça représentait la cécité progressive du personnage. Et là, finalement, on a aussi le rapport avec le côté sensoriel, sauf que là, c'est un sixième sens que se découvre la jeune fille. Dans quelle mesure, Léa, vous réfléchissez la musique en lien avec l'invisible du film?
Là, c'était vraiment l'idée, oui, de faire une musique qui travaille l'invisible, mais qui travaille aussi de manière souterraine, qui travaille le côté primitif et le côté inconscient, en fait. Où je voulais, en associant la musique de Florencia avec de la musique beaucoup plus, enfin de la musique pop tout court, des synchros, on dit, des musiques qu'on rajoute, quoi, qui elles sont toutes pop, acidulées, enfin pas toutes, mais je veux dire, l'idée c'était qu'elles soient dans quelque chose de plus ludique, de plus dans un plaisir plus immédiat. Et la musique qu'on a composée, enfin que Florencia a composée, c'était une idée d'une musique beaucoup plus brute, beaucoup plus étrange, beaucoup plus chamanique presque. Florencia utilisait pas mal de sons d'animaux et tout ça, donc il y avait quelque chose d'une recherche d'étrange et pour qu'en fait que, en effet, derrière les images qu'on montre, il y ait des images cachées, il y ait cet invisible, et la musique participe à ça, à faire jaillir comme ça sous les images qu'on montre ce qu'on ne dit jamais. Après une première vision plus lumineuse, on va dire, que ce soit le côté sombre du film qui rejaillisse.
Quand on a vu le premier montage, je me suis dit, mais tiens, il faut mettre des vaches, des bruits d'animaux, des choses. Il y a quelque chose de très viscéral, inconscient et primitif. C'est l'exploration des sens de la manière la plus presque archaïque qu'il puisse avoir, qui aussi fasse un peu contrepoint avec toute la sophistication et du film, de la composition du film et de la composition en elle-même de la bande de son. Tu vois, donc c'est pareil en ça, c'est un peu similaire à Ava, c'est-à-dire que il y a des sons qui sont très primitifs, très bruts, très très bruts, mais qui sont cousus entre eux de manière extrêmement, extrêmement fine.
Il y a une épure, donc il y avait le choix du violoncelle principalement dans le premier film, et ici les percussions, ça se décide à deux, ce type de couleur à trouver, ces timbres?
Oui, il me semble qu'on en avait parlé, mais d'emblée, je crois, comme on avait parlé de la flûte, justement, des percussions. Oui, c'est ça. Et sur Ava, on avait parlé des cordes. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est comme si, dès le scénario, on mettait un peu d'abord sur la table un peu nos envies, nos sensations par rapport à ce qui est écrit. Et ensuite, bon, on est passé par plein de choses différentes. Ouais. Et au final, on est revenu à notre sensation première. Quoi.
Mais c'est ça, ce qui est difficile de parler, je me rends compte, c'est la première fois qu'on fait une interview les deux, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on pense aux mêmes choses.
Ouais.
C'est d'ailleurs que les... Non, mais comme tu sais, je pense que c'est aussi pour ça que ça s'entend bien dans la création. C'est-à-dire qu'il y a certains types d'images, certains types de sentiments qui appellent le même type de son. Donc, certes, on a exploré pas mal de choses, mais je pense qu'on est revenu aux idées premières qu'on avait eues.
Et le dialogue entre réalisatrice et compositrice, parfois c'est pas évident pour la réalisatrice de parler de musique. Alors comment le langage commun se trouve? Est-ce que par exemple, Léa, vous lui faites entendre des musiques comme référence?
Oui, parfois. Je fais entendre parfois, mais c'est jamais pour... pour copier, hein, évidemment, mais c'est plus en lui disant « Ah, mais ça, j'aime bien quelque chose dans cette musique-là. » Et Florencia, en fait, essaie de comprendre ce que, ce que je dis. Et après, je parle aussi de sensations, je pense. Beaucoup de sensations, et que ce soit, genre, je sais pas, si ça gratte ou si ça... De matière, en fait, et de son plus que de musique, peut-être.
Une des pièges les plus grands qu'il puisse avoir pour un réalisateur, c'est essayer d'utiliser des termes musicaux. Mais cela va pour tous les postes, je pense. C'est parfois contre-productif. Tu veux partir. Donc c'est beaucoup plus clair, d'autant plus si c'est quelqu'un de très articulé comme Léa, de parler de ses sentiments ou des choses plus, plus universelles, si tu veux. Ouais.
Le fait de retrouver une artiste, est-ce que justement c'est un dialogue en moins à trouver, ou alors c'est à chaque fois repartir de zéro pour le nouveau projet?
Ça dépend de la réalisatrice. Si c'est quelqu'un qui entre-temps a évolué artistiquement parlant.
On parlait des références. Moi, j'ai beaucoup pensé au cinéma de Jordan Peele, notamment Us, et plus largement, évidemment, au cinéma d'horreur. Quelle est votre relation avec l'horreur à travers ce film, Léa ?
Il y a beaucoup de références, notamment de films américains, et Jordan Peele en fait partie. Mais après, ça faisait partie de... Enfin, il y avait ces références-là, et à la fois, parce que ça partait de références qui étaient beaucoup plus littéraires, qui viennent plutôt de la littérature américaine aussi, hein, pour le coup, mais... et qui étaient genre des références comme Dalva de Jim Harrison ou des livres de Jonathan Franzen, où en fait c'est beaucoup plus sur les personnages et sur une idée de mythifier un peu ces personnages et les lieux dans lesquels ils habitent. Et quelque chose aussi d'assez psychanalytique avec des références comme Pascal Quignard et La nuit sexuelle, qui dit que l'enfant, enfin que tout enfant, par exemple, imagine une scène invisible avant sa naissance, qui est un peu la scène de sa conception, mais où il y aurait des massacres, des cris et tout ça. Et qu'en fait, tout enfant cherche auprès de ses parents, enfin pose cette question à ses parents, et est-ce que vous m'aimiez avant que j'existe ? Et en fait, je ne voulais pas d'un film qui soit trop cérébral et trop... trop cérébral, en fait, et trop littéraire, presque. Mais je voulais garder ce romanesque. Et là, sont entrées en jeu les références plus horrifiques de cinéma, plus pop, plus fantastique, dans le sens film de genre, quoi. Et c'est vraiment l'hybridation de toutes ces références et mes envies à moi aussi qui ont donné ce film un peu protéiforme, je pense.
Le rapport à l'horreur, il y a à la fois donc le côté dans la musique climatique, hein, un climat étrange, une étrangeté, mais il y a aussi évidemment les conventions du film d'horreur, les surgissements, les apparitions de la petite fille aux yeux de la sœur, par exemple. Comment ça a été travaillé ? C'est à l'image ?
C'était surtout à l'image, mais de toute façon, je travaille toujours à l'image. N'empêche, j'ai aussi donné des matériels, il me semble que... ça s'est étendu pendant un an plus. Je pense. À des moments donnés, j'avais fait des musiques qui étaient très à l'image, mais qu'après, dans le remontage, ils les ont utilisées ailleurs. Donc oui, dans ce sens-là, oui, il y a eu pas mal de matières qui ont été placées. En plus, je pense qu'on avait une monteuse qui est Marie-Lou Salleux, qui travaille très bien avec la musique, donc ça, c'est une chance. Donc il y avait des choses qui étaient... toute matière musicale a été utilisée. Et à la fin, oui, forcément, tout était composé à l'image.
Il fallait trouver aussi ce bon équilibre entre justement les bam des films d'horreur sans que ça fasse trop, que ça fasse cheap, ou que ça fasse vraiment mauvais goût, quoi. Et à la fois, on cherchait un tout petit peu aussi ce côté mauvais goût et sursaut, et justement pour être dans ces références de films horrifiques. Et donc l'équilibre n'était pas facile. Donc c'était une question à la fois de mix, de texture, du son, de plein de choses. Mais on a fini par trouver un équilibre.
C'est pour ça que je te disais que les sons en eux-mêmes sont assez bruts. Et je cherche encore le terme, tu vois, le travail de tailleur a été très très fin pour faire justement que ça garde un équilibre, que ça reste avec beaucoup de finesse mais brutal en même temps.
Et un juste équilibre aussi réussi entre musique préexistante et musique originale. Il y avait Martin Caro sur Ava qui était le superviseur, ici c'est Thibaut Debouesne. Dans quelle mesure ce sont les superviseurs qui choisissent ces titres préexistants, ou c'est vous qui les choisissez et eux se contentent de négocier les droits, par exemple?
Alors c'est les deux, vraiment. Il y a des musiques synchro, donc qui étaient vraiment là dès le scénario, notamment je pense à Total Eclipse ou à It Should Have Been Me de Yvonne Fer. Et donc j'ai écrit avec ces musiques là mais ensuite au tournage on en a trouvé d'autres, et c'est beaucoup Paul Guillaume qui est le scénariste, chef opérateur et du coup un tout petit peu superviseur musical, qui m'a amené des musiques, notamment Me and the Devil au début, Serpent Skins, et celle de la fin aussi, de la toute fin. Et ensuite, avec le superviseur musical, c'était au montage où vraiment on était coincé sur plein de musiques, notamment les musiques pour les passages un peu clippés ou du quotidien où, où les filles partent à l'école, le mari va au travail, etc. Où là, on n'arrivait pas à trouver des musiques qui soient bien et abordables aussi au niveau prix. Et en fait, le superviseur musical, donc Thibaut, il nous donnait des listes de musiques, peut-être, je sais pas, 20, 25 propositions pour chaque moment où il nous manquait un score. Et ensuite, avec la monteuse Marie-Lou Salo, on cherchait dans ces scores-là, on voyait ce qui marchait le mieux, ce qui nous paraissait le plus évident. Et ensuite, lui, il allait négocier les droits.
Vous accueillez volontiers la musique, vous n'avez pas peur que la musique alourdit le film ?
Pendant très longtemps, au montage, on avait ces retours-là où il y a trop de musique, c'est pas bien. Et j'espérais que ce soit pas une question de trop, enfin de quantité, mais plutôt de mix et d'équilibre. Et petit à petit, on a réussi à trouver l'équilibre. Et notamment, justement, les deux types de musique différents se sont équilibrés en fait au bout d'un moment. Mais tant qu'on n'avait pas toute la musique originale, on pouvait pas. Enfin, évidemment que le score de musique synchro était trop. Donc je savais qu'à chaque retour de fin de projection de montage, on me disait il y a trop de musique. J'ai dit oui, mais pour l'instant il y en a trop. Mais en fait, ça va s'équilibrer. Et à la fin, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. Et ça y est, maintenant il y en a beaucoup. Et les gens parlent de la musique, ce qui est aussi. Tous les films, c'est pas bien forcément qu'on parle de la musique quand on sort, mais là, c'était l'idée. Mais je pense que ça a trouvé son équilibre.
Le décor est très important avec les sons de ce décor.
Oui, bien sûr, l'idée c'était pas non plus de tartiner tout le long, mais on avait des références aussi comme Magnolia de Paul Thomas Anderson, où il met vraiment de la musique partout et c'est un peu perturbant au début. Mais c'est vrai que du coup, dans les moments de silence, ça ressort d'autant plus quand il n'y en a pas et qu'il n'y a pas un travail seulement sur la musique, mais sur tous les sons. Et qu'on a beaucoup travaillé avec Alexis Ménet et ensuite Victor Pro, le mixeur. Alexis, c'était le monteur son. Pour vraiment, ça a été très long quoi, pour essayer de trouver aussi des sons toujours très choisis de campagne, de montagne, de vent, etc. qui soient aussi la musique du film quelque part, mais qui ne soient pas de la musique instrumentale.
Une chose qui est assez originale, c'est la première fois que ça m'arrive, et je pense que sur ce film-là, c'était assez essentiel, mais c'est particulier à ton film, c'est que par des raisons de planning au départ, mais à la fin artistiquement ça marche très bien, c'est le mixeur du film, Victor Pro, qui a mixé la musique aussi. Donc et il a mixé juste avant, ou la même semaine même du mix du film, ma musique originale, elle est complètement entremêlée au sound design.
Florencia, vous travaillez avec le son, vous le disiez, vous ajoutiez des sons d'animaux. Donc, vous avez aussi une partie sonore dans votre travail musical.
Les instruments solistes, on va dire, c'est une vache, un loup et un rossignol. Voilà, mais c'est complètement, on les entend pas forcément. Par exemple, le son, à chaque fois que Vicky fait une hallucination, c'est le tout premier son, je pense, qui est apparu tout en regardant le film dans ce premier montage. C'est un meulement de vache, deux ou quatre, je sais plus, octaves en dessous, à l'envers, mélangé avec une contrebasse. Si tu veux, la contrebasse, elle va venir donner... changer un tout petit peu, faire métamorphoser le timbre du son de vache. Le son du loup qui hurle, il vient se mélanger dans une séquence où on cuisine un corbeau mort. Y a un son de corbeau, un cri de... un hurlement de loup qui va être mélangé à une flûte. Pareil, tout comme avec le son de la vache, on entend d'abord... le loup, et puis ça finit dans ce son cassé de flûte. Donc c'est ce qui prime l'instrument soliste, c'est les animaux, c'est les cris d'animaux.
Très bien, merci beaucoup Léa Misius, Florencia Di Consiglio, Les 5 Diables à la quinzaine des réalisateurs.